Nous abordons le dernier dernière partie de cette émission. C'est un petit peu la course hein, aujourd'hui.
Il y a... Non, mais c'est passionnant.
Et puis bon, c'est très divers. Nous avons en réalité en face de nous un personnage dont le parcours spirituel va nous intéresser particulièrement. Ali Joseph, dans votre nom, vous portez ce parcours spirituel en quelque sorte, qui vous a mené de l'islam au christianisme. C'est un parcours qui est quand même pas encore très courant en France. Je pense qu'il y a des pays comme la Kabylie où beaucoup de chrétiens, beaucoup de Kabyles se révèlent aujourd'hui chrétiens. On parle de 10% de la population, donc c'est pas du tout anecdotique. Mais vous êtes tunisien.
Oui.
Et on peut pas dire qu'en Tunisie, on en soit au même chiffre.
Non, on ne sent pas le même chiffre, peut-être.
Parlez bien près du micro, mais.
Je m'excuse, voilà, nous ne sommes pas le même chiffre. En Nord-Afrique, il y a un grand chiffre en Kabylie, comme vous avez dit déjà, et aussi au Maroc. Au Maroc, il y a une estimation qu'il y a 20 000 chrétiens.
20 000 chrétiens?
Oui, mais qui font leur réunion discrètement. Parce qu'ils ne peuvent pas se réunir dans une église, ni partager, voilà, leur foi. Pleinement.
Oui, les églises qui existent au Maghreb sont pour les Blancs, sont pour les Européens, les Occidentaux.
Oui, il y a cette mentalité. Même en Tunisie, voilà, c'est une église pour les touristes, entre deux guillemets.
Oui.
Et pour les étudiants africains subsahariens, mais pas pour les Tunisiens. Voilà.
Voilà. Et vous avez en quelque sorte bravé cette loi du silence spirituel sous lequel on réduit les populations, et vous avez eu le courage de vous dire chrétien.
Oui, j'ai le courage, mais ça arrive pas de moi, c'est du Seigneur. Voilà.
Alors, c'est une première question que je voulais vous poser. Moi, souvent, lorsque je parle avec des convertis de l'islam, ils me disent il y a eu des signes, même dans mon enfance, j'ai toujours été séduit par le... Alors, je pense à un qui me parle du signe de la croix, par exemple, qui a joué un rôle dans son enfance. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression... dans votre vie, de quelque chose, de signe très ancien? Ou bien est-ce que c'est une découverte plutôt tardive que vous faites avec votre raison formée, votre culture et...
Oui, il y avait des signes, mais pour être objectif, c'était pas les signes les plus importants pour moi. C'était la question de Dieu. Qui est Dieu? Lorsque j'étais un petit enfant...
Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est se poser la question qui est Dieu quand on est un petit enfant, c'est pas donné aujourd'hui tellement aux Occidentaux. Enfin, on peut pas dire que.
Mais vous vous êtes converti en Tunisie ou en France?
En Tunisie, bien
en
sûr.
En Tunisie.
Oui, en Tunisie. Alors, lorsque j'étais petit, à l'âge de peut-être 5, 6 ans, chaque jour, lorsque par exemple je fais mon chemin à l'école, j'ai cette imagination. Comment je peux imaginer Dieu? Comment le monde sans Dieu? Ce type de questions, voilà, c'était une quête, une recherche de Dieu, voilà. J'étais bien sûr éduqué à la façon islamique. Mes parents étaient des bons musulmans, bien sûr. Ils pratiquaient la religion. Ils nous enseignaient des principes moraux. Ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de grands mots, n'insulte pas le nom de Dieu. Fais le jeûne, fais la prière, etc. Mais pour moi, c'était pas suffisant. C'était quelque chose d'héritage. C'était quelque chose qui vient de mes parents, de mes grands-parents. Mais j'étais pas, je dirais pas convaincu, mais j'avais pas la conscience, une conscience religieuse de connaître qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est une spiritualité, comment être dans une relation avec Dieu, comment connaître Dieu, comment vivre pour Dieu, voilà, c'est très simple. Cette question, bien sûr, était toujours...
Parce qu'en islam, on parle beaucoup, on parle de Dieu, mais la relation à Dieu n'est pas envisagée, en fait.
Exactement.
Il faut obéir à la loi, c'est tout.
Exactement. En islam, on a des principes, des notions. Par exemple, le principe que Dieu est un, voilà. que l'islam, pour les musulmans, bien sûr, c'est une religion qui accomplit les autres religions, mais on ne parle jamais, par exemple, d'une relation avec Dieu, on parle d'une loi. Peut-être l'islam, pour moi, c'est une copie de judaïsme, dans une sorte. Obéir la loi, voilà, il y a des commandements.
Un judaïsme universel.
Oui, oui, peut-être.
Mais alors, il y a certains musulmans qui ne seraient pas tellement contents d'entendre ça.
Je pense qu'ils seront pas contents, mais comme vous avez dit déjà, c'est quelque chose de... Ce sont des obligations. On ne comprend pas, même par exemple, lorsqu'on pose des questions sur Dieu, on nous dit, voilà, qu'il ne faut pas beaucoup réfléchir. Sinon, tu vas voir beaucoup de choses qui vont vous mener à être après loin de la religion. Voilà.
Donc, il faut éviter de réfléchir, il faut observer,
oui,
agir,
oui,
faire
oui.
La loi.
Oui, oui, c'est ça.
Et ça ne vous suffisait pas, en fait. Vous aviez cette dimension de réflexion très, très jeune. Vous vous souvenez de très jeune de méditation sur Dieu.
Pour moi, ce n'était pas suffisant, c'est vrai. Alors, j'ai suivi, comme tout le monde, mes parents, j'ai fait la prière, etc. Je n'étais pas tellement pratiquant, mais... Même cette question de l'identité de Dieu, c'est un peu disparu dans ma jeunesse. C'est-à-dire, à l'âge de 12 ans, 14 ans, c'était un peu...
Estompé.
Oui, oui, oui.
Et alors, il y a eu un événement ou une suite d'événements qui vous ont fait vous reposer la question de Dieu plus tard ?
Mais bien sûr, c'est vrai, il y avait une préparation, parce qu'à un certain âge, j'étais un peu... un peu radicaliste, un musulman radicaliste. C'est-à-dire, il y avait un événement qui m'a choqué. J'avais l'âge de 16 ans, je pense, ou 15 ans, que j'ai regardé une émission qui était, bien sûr... il y avait un prêtre copte orthodoxe, voilà, qui parlait de l'islam d'une façon terrible. Voilà.
C'est le père...
Zachary. Oui, oui, c'est lui.
Qui joue un rôle... énorme parce que oui. Sa prédication par les oui. ondes passe
oui, c'est vrai.
Dans tout le monde musulman. En fait.
Dans tout le monde musulman, spécialement le Moyen-Orient, c'est vrai. Le père Zacharie était l'un des premiers, on peut dire.
Et ça a été pour vous un électrochoc hein,
un électrochoc. Il parlait des choses qui ne sont pas faciles à accepter. Pour moi, lorsqu'il a parlé, par exemple, la question de que le prophète... Mohamed, il était au ventre de sa mère pendant 4 ans, d'après ce que dit le hadith.
C'est oui, le hadith.
Alors j'étais un peu choqué, j'ai dit, mais quand même, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire des mensonges, c'est pas vrai, etc. J'étais choqué.
Et vous avez vérifié?
Ou bien... Non, j'ai pas vérifié. Et en revanche, j'avais une honte contre les chrétiens dans cette période. Les chrétiens, oui, dans cette période, j'ai dit, voilà, il ne faut plus être tolérant. Ils ne nous respectent pas, ils ne nous aiment pas.
Donc ça, c'est la rencontre avec par les ondes, par la télévision,
oui.
Avec le père Zacharie.
Oui, à un âge de 15 ans, je pense, j'ai oublié, ça fait longtemps.
Et qui vous a radicalisé dans l'islam, comme on dirait, qui a eu en fait un rôle dans un premier temps... inverse de celui que cherche
oui,
le prédicateur.
Bien sûr, c'était un choc pour moi, mais pas tellement radicalisé. C'est-à-dire, je suis pas devenu un bon pratiquant. Voilà, je lis le Coran chaque jour, j'irai aux mosquées, etc. Mais non. Mais j'avais ce sentiment de la haine contre les chrétiens parce qu'ils n'acceptent pas le prophète Mohammed et parce qu'ils critiquaient toujours l'islam. Voilà. D'après ce que j'ai vu, à cet âge. À travers cette émission de Père Zacharie Boutros.
Voilà, oui. Boutros, voilà. Oui. Et donc ça, c'est vos 15 ans à peu près.
Oui.
Votre état d'esprit à 15 ans.
Oui.
Et alors, un peu plus, qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, 35 ans à vous voir?
Non, ce n'est pas 35 ans, c'est 26 ans.
26 ans, vous avez, oui. Vous avez 10 ans de sagesse de plus alors. Mais...
J'espère.
Donc, il va se passer un certain nombre d'événements quand même, parce que là, vous n'êtes pas parti pour devenir chrétien, on n'a pas l'impression que c'est écrit d'avance.
Oui. D'abord, Dieu a mis quelqu'un dans mon chemin, d'abord pour se changer, voilà, pour ne pas être radical, pour être un peu tolérant. C'était un ami qui était même athée, qui n'était pas même croyant, d'abord. Et on parlait toujours de la religion, voilà. Et il me donnait beaucoup d'explications logiques, voilà, sur la religion, sur l'adaptation, comment vivre le quotidien, etc. Alors, c'était à l'âge de 17 ans. Alors, j'ai pris la décision, voilà, d'accepter tout le monde. Après cette haine contre les chrétiens, j'ai dit, voilà, je peux même parler avec un athée, un agnostique, un juif. Mais
ça a été très important pour vous, cette rencontre avec un athée.
Oui, oui.
C'est paradoxal, hein, j'attire l'attention des auditeurs sur ce point, parce que c'est pas la première fois que j'entends dans ce genre de récit le passage par une forme d'athéisme. Je vous demande pas si vous avez été athée à ce moment-là, mais en tout cas, vous étiez positivement orienté face à un athée, quoi.
Oui, positivement parce que j'ai appris, voilà, à réfléchir d'une façon rationnelle. Voilà. C'est plus être relié à l'héritage sans rien réfléchir, sans rien comprendre.
C'est très intéressant. Oui, oui.
Oui. Et le deuxième événement qui était important dans ma vie, c'était en 2011, au mois de septembre. Alors, j'étais en train de faire des études dans un centre de formation. J'étais en train de faire une formation d'un technicien supérieur de sang.
Alors, il y avait... De sang ?
Oui, de sang, oui.
Sur le sang ?
Sur le sang, oui. Mm-hmm. Alors, il y avait un ami qui était protestant et qui était bien sûr un collègue. Et c'est lui qui a partagé la bonne nouvelle avec moi.
Un évangélique, comme on dit aujourd'hui.
Un évangélique. Bon, je pense peut-être qu'il est un pentecôtiste.
Mmh.
Oui. Alors, il a partagé la bonne nouvelle.
C'est les pentecôtistes qui sont les plus nombreux en terre d'islam aujourd'hui. Les catholiques sont là depuis longtemps,
oui.
Mais ils ne diffusent pas autant que les pentecôtistes.
Je ne pense pas que les pentecôtistes sont majoritaires, je pense que les évangéliques sont la majorité.
Il y a encore...
Les évangéliques, par exemple, en Tunisie, il y a des évangéliques baptistes, il y a aussi des presbytériens, mais qui ne se déclarent pas qu'ils sont des presbytériens ou baptistes. Ils se disent qu'on est des évangéliques. Voilà.
Et il y a beaucoup d'évangéliques qui le sont faute d'autres contacts, et qui, par exemple, alors j'ai un exemple précis en tête, disent qu'ils aiment beaucoup la Sainte Vierge.
Des évangéliques qui disent...
Alors, pas tous, hein, parce que souvent, c'est
pas
plutôt
tout,
le contraire.
Hein. C'est le contraire.
Mais je veux dire que
c'est
d'autant plus frappant que certains disent « Mais moi, j'ai rien contre Marie. » Et on sent que, finalement, les évangéliques sont les plus audacieux, sont les plus dynamiques, et que c'est eux qui ont le plus grand nombre de conversions.
Oui.
Alors, active, donc vous commencez en fait par ce contact avec un ami, un collègue.
Oui, qui est protestant, oui, qui est évangélique. Alors, avant bien sûr de parler du christianisme, on a commencé d'abord à parler sur l'histoire du Nord-Afrique. Voilà, comment les Arabes sont venus en Nord-Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que l'histoire nous parle, comment Nord-Afrique. A refusé l'islam 12 fois, c'est-à-dire on fait une conquête, voilà, on prend les territoires, on sort, et après les Nord-Africains disent voilà, on a rien à faire avec cette religion, et c'est la même chose qui continue pour 12 fois.
12 Donc fois une dans conquête militaire, en fait.
Conquête militaire, oui, par les Arabes, parce que les Nord-Africains ne sont pas des Arabes.
Ça, c'est, oui, ça...
Mais beaucoup n'ont pas la conscience. Ils se disent qu'ils sont arabes, mais génétiquement parlant, même National Geographic a fait une étude scientifique sur les gènes de beaucoup de gens. Ils ont trouvé que 98% des gènes, ils sont des gènes nord-africains. Ils ne sont pas des gènes arabes.
Autochtones.
Oui. Oui.
Donc là, vous avez cette démarche un peu politique, on peut dire. En tout cas, ou historique, et de recherche de votre héritage personnel.
Oui.
Et cet ami pentecôtiste était également tunisien.
Oui, il était tunisien, et il le disait, voilà, que je suis tunisien, je suis chrétien, Il n'a pas peur de le réclamer, de le déclarer, voilà.
Oui. Et alors, il vous a emmené à des cérémonies pentecôtistes ou évangéliques ?
D'abord, il m'a donné, bien sûr, le Nouveau Testament. J'étais fasciné, bien sûr, par le Nouveau Testament. Je l'ai lu pendant une semaine, je pense. J'ai lu tout le Nouveau Testament. Voilà, j'étais fasciné. Je trouvais beaucoup des enseignements moraux. Je trouvais un discours direct entre Dieu et l'être humain. Voilà, Jésus nous parle directement. J'étais fasciné par les béatitudes. Ça a réveillé quelque chose en moi que je ne connaissais pas. Voilà.
C'est très bien dit. Oui. Oui. Ça a réveillé quelque chose en moi que je ne connaissais pas. Je pense que tout converti au christianisme peut dire ça. C'est déjà en moi. Et pourtant, je ne le connais pas.
Oui, oui. Il y avait...
C'est Saint Augustin.
Oui.
Alors, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Enfin, Saint Augustin relu et synthétisé par Pascal, disons-le. Mais alors, oui.
Je m'excuse, mais après, bien sûr, oui. Il m'a amené vers une cérémonie protestante, voilà, un culte protestant. D'abord, il m'a dit, si tu veux choisir, il y a deux églises. Une église anglicane, le pasteur est libanais, et une église évangélique, le pasteur est tunisien. J'ai dit, je choisis l'église évangélique et le pasteur tunisien.
Oui, ça fait partie de votre recherche.
Mais bien sûr. Voilà, et c'était, je pense que...
Parce que la religion fait partie de l'identité de la personne, en fait. C'est ça que vous soulignez.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Et pour moi, voilà, cet instant-là, de connaître qu'il y a un pasteur tunisien... Bien sûr que je vais le choisir. J'aimerais que je serais présent dans un culte tunisien. Voilà, c'est parce qu'il y a ce sentiment d'identité qui est fort en nous. Voilà.
Oui, bien sûr, je comprends très bien. Et alors donc, vous avez participé à cette première cérémonie, vous vous en souvenez peut-être, vous avez des souvenirs assez précis de ce premier contact direct.
Oui, la première fois, c'était... Je pense que c'était avant même le culte, je suis entré à l'église vers 19h ou 20h. Il y avait une répétition du choral. Voilà. Et voilà, j'étais bien accueilli. Il y avait des gens qui étaient très gentils, voilà, qui parlaient toujours de Jésus.
Et alors, les chants étaient en arabe ou...
En tunisien et en arabe.
En tunisien.
Deux. Même en tunisien, oui. Oui.
Et il y a beaucoup de différences entre le dialecte tunisien et l'arabe.
Oui, il y a une grande différence parce que le dialecte tunisien est à 50 ou 60%, c'est du berbère, voilà.
Ah oui.
Il y a des mots qui sont berbères, mais il y a aussi des autres mots qui sont en français, en italien, en arabe. Il y a un mélange. Mais par exemple, si un Tunisien va parler en tunisien... Il y a quelqu'un qui est de l'Arabie Saoudite, il ne va pas le comprendre. Un Égyptien, il ne va pas comprendre un Tunisien. Mais nous, en Nord-Afrique, on peut se comprendre, pourtant qu'il y a des différences au niveau des dialectes.
Mmh.
Oui.
Avec ce rôle du berbère et cette idée pour vous qui cherchez le Christ, que les berbères étaient chrétiens.
Oui, oui, ils étaient des chrétiens.
Je suis toujours frappé, j'ai un ami berbère qui me disait qu'il y a des coutumes, des gestes, qui reste dans la culture berbère, par exemple, de faire un signe de croix sur l'enfant.
C'est vrai.
Il y a des gestes qui restent de la oui. première église, en fait, de la première évangélisation.
Par exemple, l'une des choses des plus connues qu'on apprend lorsqu'on est des petits-enfants, si on trouve un bout de pain qui est tombé, on le prend, on l'embrasse et on le met ailleurs pour le protéger. Je pense que ça vient de l'Eucharistie, voilà.
Oui, oui. Ouais, c'est très beau.
On dit aussi que le pain est la grâce de Dieu. Si je traduis bien, bien sûr, de l'arabe vers le français, c'est la grâce de Dieu. Il restait même quelques tatouages pour les grands-mères. Voilà, parce que ça est en train de disparaître. Il y a même des croix dans ces tatouages. Des tribunes, voilà, nord-africaines, pour se distinguer entre eux.
Entre eux.
Hey. Oui.
Hey, c'est passionnant. Alors donc, vous êtes au contact de ce groupe de fidèles évangéliques.
Oui.
Vous rencontrez des gens, peut-être, autres que votre ami, ou
bien sûr, bien sûr.
Des gens qui sont tunisiens comme vous, oui, et qui sont chrétiens.
Et qui étaient, la plupart étaient des jeunes aussi. C'est très important de le dire.
Oui.
Qui étaient des jeunes. Voilà, après le culte, chaque samedi, on se rassemblait ensemble dans un café. Voilà, on parlait de notre vie et c'était des moments forts dans ma vie. Il y avait le sentiment d'une communauté, voilà, d'être dans une communauté.
Ce que vous n'aviez jamais eu dans l'islam.
Dans l'islam, c'était présent, mais c'était quelque chose de rigide, de froid, c'était pas quelque chose de vivant. Christianisme, c'était quelque chose de plus vivant qui est...
De cordial, en fait.
De cordial et qui est un fruit de la charité, voilà, une véritable charité.
Et alors, vos parents sont au courant de votre itinéraire spirituel? Ils vous suivent? Ils acceptent ce que vous découvrez? Ou ils ne sont pas au courant, au contraire et...
Mes deux sœurs, qui sont plus grandes que moi, ils sont au courant. Ils me connaissent que je suis chrétien. Ma mère aussi, parce qu'elle a trouvé pleine de croix et des médailles, etc. Elle les a confisquées parfois. Mais mon père, on n'a jamais parlé à ce sujet, mais il connaît que je ne suis pas musulman, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il connaît, mais il ne veut pas parler de ce sujet.
Il
ne
veut pas le reconnaître en fait,
oui,
parce
oui,
que ça l'obligerait oui, à prendre une attitude qu'il
peut-être,
ne veut pas prendre.
Peut-être, exactement, et parce que je suis aussi le fils unique, c'est un peu difficile pour lui même de prendre une décision de m'écarter de la famille, etc. Mais, pour être honnête, voilà, ma famille m'aime beaucoup et je vis ma foi librement. J'ai aucun problème avec ma famille. Au niveau de ma famille...
Ça, c'est très intéressant. Ouais.
Oui. Oui. Peut-être, la première période, j'avais un problème avec une sœur qui n'était pas tellement contente de ma conversion. Mais après, elle est habituée, voilà.
Et alors, vous avez, avec les évangéliques, vous avez reçu le baptême, vous avez, ou bien vous
oui,
l'avez...
Oui, j'étais baptisé dans un culte tunisien dans l'église réformée française.
Oui.
C'est une église protestante française. Mais le culte n'était pas reconnu par l'État des pasteurs tunisiens, parce qu'il y a deux cultes, un culte en français et un culte tunisien.
Et le culte français est reconnu et pas
il
le culte
reconnu,
tunisien.
Il est reconnu, mais bien sûr, il n'est pas reconnu. Mais spécialement dans la période avant la révolution tunisienne, avant 2011, c'était plus pire.
Et alors, vous avez un parrain ou vous avez, pour ce baptême, vous avez...
Non, parce que je pense que les évangéliques ne pratiquent pas ce
parrainage.
Oui, oui, oui.
Donc, vous vous êtes fait baptiser seul.
Ah oui.
Et avec d'autres amis ou même pas?
Oui, il y avait deux autres. Ce jour-là, on était trois. On était trois, c'était une belle cérémonie. Après notre baptême, il y avait beaucoup des fidèles qui nous ont dit « Voilà, bienvenue dans la famille, vous êtes maintenant des chrétiens, si vous aurez besoin de quelque chose, nous sommes une seule famille. » C'était un moment fort aussi, voilà.
Et alors, vous éprouvez ces évangéliques comme... une famille, et pourtant vous allez changer de famille en quelque sorte en intégrant l'Église catholique.
Oui.
Alors que vous ne leur reprochez pas leur manque d'affection, de lien, de charité.
Oui, oui. Ils étaient des véritables témoins de Jésus-Christ, mais après une période, voilà, je me suis un petit peu éloigné de culte parce que il y avait des problèmes, j'étais pas encore mature dans la foi, voilà. Après, il y avait des problèmes même personnels avec certaines personnes. Et j'étais éloigné.
Je ne veux pas être indiscret et rentrer dans des considérations qui soient uniquement personnelles, parce oui, que là, vous parlez pour beaucoup de monde derrière ce micro. Hein. Mais quel genre de problème peut-on connaître? Moi, c'est ce que j'appelle le choc post-opératoire.
Oui.
C'est-à-dire que pour le jeune baptisé, la vie change.
Oui.
Les horizons changent.
Oui.
Les valeurs des choses changent.
Oui.
Et donc il y a un choc post-opératoire, il y a une oui, difficulté qui peut naître.
J'étais baptisé à l'âge de 19 ans. Après quelques mois, J'avais l'âge de 20 ans. Voilà, c'est. Il y a un changement de comportement. Avant, lorsque j'étais un nouveau fidèle, voilà, que je viens à la communauté, tout le monde était intéressé, il parlait, voilà. Il m'envoyait des SMS, il y avait une bonne relation. Mais après une période, cette relation devient un petit peu froide, comme si j'étais un nombre.
Comme si vous étiez une
Un
unité
chiffre.
parmi d'autres, oui.
Oui, un chiffre.
Ouais.
Ça a changé après et ça m'a beaucoup choqué dans une période. Je me suis éloigné, voilà, de culte évangélique, mais j'ai dit, j'espère que Dieu va me guider. Et à cet instant-là, je fais une connaissance d'un chrétien tunisien catholique qui était lui aussi protestant, qui était
Avant.
avant, oui. Il était protestant, il a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même à l'époque du président Ben Ali, qui était une époque un peu difficile, c'était pas facile d'être chrétien. Parfois, la sécurité nationale, elle prenait des fidèles pour faire des investigations avec eux. Vous connaissez qui, pourquoi vous êtes devenu chrétien, etc. Il y avait une sorte de persécution, pas comme en Égypte, pas comme en Arabie Saoudite, mais quand même, il y avait une persécution. Alors j'ai fait une connaissance de ce jeune chrétien catholique qui était séminariste à cette époque-là, et on a établi une véritable amitié. Il m'a invité quelques fois chez lui, et après, on a commencé à parler sur le christianisme. On a parlé des sujets importants. D'abord, on a commencé par l'intercession des saints. On a commencé par Saint Joseph et la Sainte Vierge. Après, on a parlé bien sûr, de magistère de l'Église. Beaucoup, beaucoup des sujets, voilà, de la doctrine catholique.
Et alors sur les saints, vous aviez reçu l'enseignement évangélique comme quoi les saints étaient des chrétiens comme
Les
les
fidèles,
autres.
oui. Oui.
Et donc là, vous avez reçu un autre enseignement sur les saints
Un autre enseignement, oui.
qui présente les saints comme intercesseurs.
Oui.
Et ça ne vous a pas choqué?
Bon, lorsque mon ami m'a expliqué beaucoup de choses, c'était un peu logique lorsqu'on parlait de la Vierge Marie comme la porte du ciel, comme... Par exemple, à l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait les commandements dans l'Arc de l'Alliance, je pense.
Oui.
Alors la Vierge Marie, elle a porté Jésus-Christ dans son sein. Alors elle était aussi
L'arche
l'Arche
d'alliance.
d'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Alors en faisant une réflexion purement biblique, c'était logique pour moi parce que voilà, je retenais quelques versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je faisais la relation entre eux. Une méditation, une réflexion, je trouve que c'était logique lorsque on honore la Vierge Marie, lorsqu'on demande son intercession, parce que l'humanité du Seigneur, ça devenait d'elle, c'est sa chair, son chair, c'est sa chair.
Oui.
Alors la Vierge Marie était très importante et il était voilà, c'était la porte de Dieu, c'était discret, c'était caché, Satan ne la connaît pas. Voilà, c'était quelque chose d'important. On a beaucoup parlé de la Vierge Marie. Je pense que la première chose catholique que j'ai appris, c'était le rosaire. Voilà.
La prière du rosaire, donc cette répétition, je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas forcément chrétiens, qui nous
Oui.
écoutent, la prière du rosaire, c'est cette répétition des « Je vous salue Marie
Oui.
» qui permet de créer une atmosphère où l'âme se rapproche de Dieu, s'élève vers Dieu,
Mais bien
en
sûr.
faisant abstraction des distractions extérieures.
Oui, mais j'admire beaucoup le rosaire aussi parce que c'est l'évangile des pauvres, parce qu'il y a des méditations, il y a des situations bibliques aussi à faire une
Les
ref.
mystères du
Les
rosaire.
mystères du rosaire, oui, bien sûr. Alors le rosaire pour moi était très important dans ma vie.
Et alors donc vous tombez sur ce séminariste catholique qui vous donne le goût de la prière à la Vierge Marie
Oui.
et qui vous parle aussi de questions très théologiques, parce que vous évoquiez tout à l'heure le mot magistère,
Oui.
donc l'autorité doctrinale du pape de Rome.
Oui.
Vous aviez envisagé ces questions.
Et bien sûr. Et on a mené beaucoup de discussions sur ces questions-là, que l'enseignement du pape est infaillible, bien sûr, sur, par exemple, bien sûr, les apôtres, comment ils ont, bien sûr, j'ai oublié le mot en français, je m'excuse, mais c'est pas l'intercession apostolique, c'est... J'ai oublié. Oui.
Oui, que non pas, oui, oui.
Le fait la que... succession apostolique.
Succession apostolique, oui.
Oui.
Oui. Oui. Et même, mais la chose la plus bonne dans nos conversations, mon ami était protestant. Il connaît que je viens d'une culture un peu protestante dans ma conversion. Alors on parlait avec référence à des versets dans la Bible.
Oui, ça c'est très important.
Ça c'était très important pour moi. Alors chaque fois on prenait la Bible, on prenait ce verset de Bible. C'est pourquoi pour moi c'était logique de croire à ces vérités, à cette doctrine.
Et figurez-vous que moi, en tant que séminariste catholique dans le temps, il y a longtemps, j'ai été passionné par les études bibliques parce que je trouvais que étudier la Bible de façon précise, c'était retrouver la doctrine catholique, en particulier sur la Vierge Marie, aussi sur l'intercession des saints.
Bien sûr.
Tout ça se trouve dans l'Écriture.
Oui.
Alors donc, vous rencontrez peut-être des prêtres après.
Et bien sûr.
Vous entrez un peu dans le mystère de l'Église catholique.
Bien sûr. Après, voilà, des conversions qui ont pris quelques mois, 3 mois, je pense. Voilà, j'ai dit que je voulais faire du catéchisme. Et il m'a dit d'accord, il n'y a aucun souci. Alors il m'a mis en contact avec une sœur qui était la responsable du catéchisme. Et j'ai commencé mon catéchisme en septembre 2013. Et j'ai fini le catéchisme en 2015 pour le baptême. C'était...
Donc 2 ans.
2 ans, oui, bien sûr. La fête du Sacré-Cœur, le 12 juin. Et après, j'ai continué à faire mon catéchisme et j'étais confirmé en 2018.
Et vous avez été rebaptisé?
Oui, rebaptisé, parce que le culte protestant tunisien n'était pas reconnu.
Mmh.
C'était pas officiel.
C'est-à-dire qu'en matière de sacrement, on ne peut pas être trop prudent.
Oui.
Donc c'était peut-être un rebaptême sous condition que vous avez eu, non?
Oui.
C'est ça.
Un rebaptême sous condition, oui.
Et ensuite, première communion et...
Mais bien sûr.
Et la suite. Et alors là, vous vous trouvez en France... Parce que vous êtes allé encore plus loin un peu dans cet itinéraire spirituel.
Oui, je suis en train de faire un discernement et aussi une formation qui me permet bien sûr de bien comprendre ma réalité, de bien agir. Voilà.
Et vous verriez apôtre, vous verriez peut-être prêtre ou...
Peut-être, mais il faut bien discerner avant.
Mmh.
Mais pour moi, la vocation la plus importante, c'est d'être un chrétien, être un témoin de Christ, que ce soit prêtre, que ce soit marié.
Que ce soit marié, bien sûr.
Ce sont deux vocations importantes qui mènent à la même finalité. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous diriez à un musulman qui vous aurait écouté aujourd'hui, qui aurait écouté notre émission jusqu'au bout, qui n'aurait pas éteint le poste radio d'un geste rageur? Qu'est-ce que vous lui diriez?
Je le dis, voilà, que Dieu l'a créé libre, il a donné la liberté de réfléchir. Je le recommande quand même qu'il soit un peu tolérant, qu'il réfléchisse, qu'il utilise cette intelligence que Dieu l'a donnée. Voilà. Et s'il a vraiment un soif à Dieu, qu'il prie une simple prière. Qu'il dit, voilà, Dieu, révèle-toi à moi.
Voilà. Merci. Alors, vous allez intervenir au forum...
De Jésus-Messie.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez redonner les coordonnées du forum pour que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils puissent participer, éventuellement vous retrouver à ce forum?
J'ai pas actuellement les coordonnées.
Ça a lieu donc à Notre-Dame de Passy.
Hein, oui, je pense, oui.
Et ça a lieu samedi et dimanche.
Samedi et dimanche, oui.
Vous avez un peu plus parce que vous.
Non.
Bon, en tout cas, ce forum de Jésus-Messie,
oui.
Voilà, il faut regarder sur Internet pour avoir peut-être plus de précisions. Je suis confus, je ne fais pas mon travail.
Non, mais là, c'est
là, mais on avait tellement invité que...
Notre-Dame de Passy, samedi et dimanche, ça doit suffire.
Voilà. Et vous y intervenez vous-même ou vous êtes là pour écouter ou vous témoignez?
Oui, je témoigne. Oui.
Très bien. Et bien que le Seigneur soit avec vous dans ce témoignage.
Amen.
Merci Ali Joseph de nous avoir partagé avec autant de simplicité votre chemin spirituel. Ça nous fait beaucoup de bien à nous, Européens.
Merci à vous aussi pour l'invitation et je suis très content d'être ici.
À bientôt.
Bientôt.